Smaïl Chergui, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous rentrez de Bangui, mais malgré l'accord de paix du mois de février, les violences continuent. Est-ce que c'est inquiétant?
Je pense que selon l'évaluation que nous avons faite depuis la signature de l'accord en février dernier, les violations et les violences ont plutôt baissé. C'est vrai que nous avons quelques points chauds, comme ceux qui sont intervenus dans la région du mouvement des 3R ou dernièrement à Birao, mais les statistiques sont vraiment encourageantes. Nous avons beaucoup de vies humaines qui ont été préservées ces derniers mois. Et certes, on aurait aimé qu'il n'y ait pas de violence du tout, mais en tous les cas, depuis la signature de l'accord, nous avons constaté qu'il y a moins de violence, mais aussi nous avons constaté qu'il y a des avancées. Elles ne sont pas peut-être du niveau que nous aurions souhaité, mais à ce stade, il y a déjà tous les comités de mise en œuvre préfectoraux, au moins 15 d'entre eux sont sur place. 14 comités techniques de sécurité également fonctionnels. Et nous avons surtout noté qu'il y a un déploiement des forces de défense et de sécurité dans plusieurs parties du territoire. Le fait que tous les préfets maintenant sont déployés et 66 sous-préfets sur 71 ont été également déployés. Donc ce retour de l'administration publique est un signal qui ne trompe pas, y compris à Birao, dans quelques jours. Il y aura un déploiement de la gendarmerie, de la police et de l'armée. Ça veut dire que les services de l'État ont commencé réellement à reprendre les choses en main. C'est des avancées qu'il faut prendre en compte. Donc durant cette visite, nous avons non seulement fait ces constats, mais nous avons aussi fait les constats de ce qui aurait pu être fait, qu'il s'agisse des mouvements qui continuent encore à entretenir certains barrages illégaux ou à taxer les gens, qu'il s'agisse de non-adhésion totale au processus de DDR, mais peut-être le retard le plus urgent à combler, c'est celui du déploiement des unités spéciales de sécurité, les USMS, qui constituent réellement un élément essentiel de l'accord dans la mesure où il va promouvoir une certaine intégration, amener les éléments du mouvement à travailler avec les FACA. Le lancement de ces USMS nous donnera l'occasion d'avoir des observateurs sur place, un outil légal d'action en faveur de la protection des institutions de l'État et de la promotion de la paix dans ces régions-là.
Alors, les USMS, ce sont les unités spéciales mixtes de sécurité, c'est-à-dire en fait des patrouilles mixtes, moitié forces armées, moitié anciens rebelles. Mais pour l'instant, ça ne marche pas.
En fait, le président de la République doit conduire à l'ouest du pays le lancement de la première USMS. Donc, c'est vraiment le lien qui va montrer que tous les fils de ce pays peuvent s'intégrer, travailler ensemble et promouvoir la sécurité de leur pays.
Autre problème, monsieur le commissaire, les pays voisins. À Birao, dans le nord-est de la Centrafrique, les rebelles s'entre-déchirent et ils se ravitaillent au Soudan voisin, notamment à Niala, au sud Darfour.
C'est absolument important que cette situation, évidemment, soit traitée avec les pays voisins. Et dès le début, si vous vous rappelez, notre démarche était aussi d'inclure dans l'effort tous les pays voisins. Et ils y ont répondu. La preuve, nous avons jusqu'ici déjà tenu la commission mixte avec le Cameroun, avec le Congo-Brazzaville et très bientôt, en novembre, avec le Tchad. Donc, effectivement, ces frontières poreuses, c'est une donnée réelle et sur laquelle, évidemment, nous appelons les pays à travailler. Et de fait, cette question, nous l'évoquons ici au moment où nous sommes actuellement au Soudan. Je crois qu'il y a très bonne volonté de part et d'autre. Donc, je vous rejoins pour dire que il faut absolument que tous ces mouvements ou toutes ces infiltrations, si elles sont confirmées, et tous ces trafics d'armes qui pourraient aussi exister, ne sont pas de nature à travailler ni pour la sécurité de Centrafrique, ni pour les pays voisins.
Et c'est une donnée dont vous parlez avec les nouvelles autorités soudanaises, avec le Conseil souverain.
Je crois que nous avons déjà approché les plus hautes autorités du pays et je crois que c'est une des questions, y compris la tenue, je crois, prochaine aussi de la commission mixte entre le Soudan et la République centrafricaine, dont nous avons déjà l'accord de principe.
La présidentielle en République centrafricaine, c'est à la fin de l'année prochaine, mais dans l'opposition, beaucoup disent qu'il sera impossible de faire campagne à l'intérieur du pays et qu'il vaut mieux mettre en place un régime de transition d'ici 2020.
Je crois que les Nations Unies, l'Union européenne et l'Union africaine, nous nous sommes exprimés à l'unisson sur cette question, considérant que cette approche-là n'est pas acceptable. C'est un glissement dont on ne sait pas où mènera encore le pays. Je pense qu'il y a eu un processus électoral crédible qui a amené le président Touadéra actuellement. Donc l'opposition est dans son rôle de critiquer le gouvernement. Mais de là à nous ramener encore en arrière pour une nouvelle transition, je pense que les trois organisations ont catégoriquement rejeté cette approche, tout comme on a rejeté à l'unisson le report des élections.
Il n'empêche, Monsieur Cherghi, beaucoup d'opposants centrafricains reprochent au président Touadéra d'avoir conclu un pacte avec les groupes armés afin de pouvoir faire campagne l'année prochaine dans les territoires que contrôlent ces groupes armés, alors que les autres candidats resteront bloqués à Bangui.
Bon, il me semble que le moment venu, avec la MINUSCA, quand le processus électoral sera avancé, je crois que nous nous emploierons à mettre un processus qui permettra à tous les candidats d'avoir un libre accès, un égal accès aux électrices et électeurs centrafricains. C'est possible.
Pour la paix en Libye, l'ONU veut organiser d'ici quelques semaines une conférence entre tous les pays qui soutiennent militairement les belligérants, c'est-à-dire notamment la Turquie, l'Égypte, les pays du Golfe. Est-ce que vous soutenez cette initiative ?
Je ne sais pas si vraiment on a besoin de tenir une conférence avec tous ces pays qui interfèrent ouvertement dans les affaires libyennes. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu exiger que l'embargo décrété par le Conseil de sécurité soit immédiatement mis en œuvre et qu'il soit assorti de mesures adéquates pour ceux qui n'y répondraient pas?
À l'Assemblée générale des Nations unies, il y a 2 semaines, vous avez demandé au Conseil de sécurité de remplacer l'actuel monsieur Libye de l'ONU par un monsieur Libye commun à l'ONU et à l'Union africaine. Pourquoi cette proposition?
Je crois que depuis 8 ans, les Nations unies cherchent ce dossier. Et malheureusement, on n'arrive pas à avancer bien plus. La situation se complique. Donc, c'est de bonne foi que nous avons dit, associons-nous aux Nations unies, qui certes a fait un travail, mais on voit qu'il n'aboutit pas, et qu'on puisse avoir une personnalité conjointe qui soit de très grande dimension, de très grande probité. Cela nous permettra ensemble d'agir mieux, peut-être d'élever la voix quand il le faut, ensemble, et surtout d'arrêter ce schisme qui est en train de s'élargir entre les Libyens et vraiment arrêter l'arrivée massive de toutes ces armes très meurtrières, très avancées et son impact qui est terrible.
Voulez-vous dire que l'actuel monsieur Libye de l'ONU, Hassan Salamé, a beaucoup travaillé mais n'a pas réussi et qu'il faut peut-être qu'il passe la main ?
Je crois qu'il a certainement travaillé, mais la situation est complexe, elle est difficile. C'est pour cela que nous voulons joindre nos efforts à ceux des Nations Unies pour, si par exemple ils veulent le nommer lui comme représentant conjoint, peut-être qu'on va examiner la question et peut-être arriver à un accord. C'est vous dire que c'est pas tellement sa personnalité elle-même, mais nous voulons réellement être partie prenante dans la recherche de la solution à laquelle je pense que nous pourrons apporter une certaine sensibilité en tant qu'Africains.
Pour vous, le bon profil, c'est quelqu'un de consensuel qui soit à la fois le représentant de l'ONU et de l'Union africaine.
Absolument. Et nous avons en tête une très grande personnalité qui est connue. Déjà en 2011, il était sur le dossier. Donc si d'aventure cette idée est acceptée par le Conseil de sécurité, je pense que nous serons très heureux de matérialiser, de concrétiser cette possibilité et de nous mettre au travail ensemble.
Smaïl Cherghi, merci.